VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, les candidats favoris aux présidentielles commencent à réagir après le scrutin. Martin Ziguele, ancien premier ministre et candidat du MPLC, se dit satisfait. Il a déclaré à l'AFP avoir fait de bons scores dans les fiefs traditionnels de son parti et même dans les zones où le MPLC est peu implanté. Anissé Georges Dologuele, lui aussi ancien premier ministre, exprime également de la satisfaction, en particulier en ce qui concerne ce qu'il appelle sa bonne performance à Bangui. Un outsider, Archange Touadéra, lui aussi ancien premier ministre, serait également en bonne position dans la présidentielle, selon des sources non officielles. Les électeurs se sont donc rendus massivement aux urnes hier, un scrutin qui s'est déroulé sans aucun incident dans l'ensemble du pays. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les résultats du scrutin de ce 30 décembre sont en cours d'acheminement au centre de traitement des données de l'ANE, l'organe en charge des élections dans le pays. Plusieurs bureaux de vote ont fermé tard dans la soirée d'hier en raison de leur ouverture retardée par les difficultés liées à l'acheminement du matériel électoral. Cette situation a fortement joué sur les opérations de dépouillement faites lentement avec des lampes torches ou des téléphones portables. Il est encore trop tôt de donner les premières estimations car aucun bureau de vote n'était en mesure d'afficher à temps les procès-verbaux. Les résultats partiels du scrutin présidentiel sont attendus dans les 6 prochains jours selon le code électoral avant la proclamation finale par la Cour constitutionnelle de transition dans les 15 jours suivant la date du vote. Freeman Sipila, Bangui.
Les électeurs se sont donc rendus massivement aux urnes hier en RCA pour la présidentielle et les législatives censées mettre fin à la transition dirigée par Catherine Samba-Panza. Les Centrafricains de l'étranger, eux aussi, ont voté dans la sérénité. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, comme le souligne le représentant de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, à Brazzaville, Étienne Grébali.
Le scrutin s'est globalement bien déroulé au Congo. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème majeur. Nous estimons un taux de participation supérieur à 50%. Enfin, les résultats provisoires seront communiqués à Bangui. Enfin, c'est à Bangui que les résultats généraux, en tout cas, seront connus.
Étienne Grébali, représentant de l'ANE à Brazzaville, République du Congo. En France, on a aussi enregistré une forte participation à Paris et dans 5 autres villes de province. Le président de l'ANE dans l'Hexagone, François Ndékéré Ziangba.
Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de la manière dont le vote s'est déroulé ici en France en cette journée, quand bien même que nous avions eu quelques inquiétudes puisque c'est une première expérience que le vote se déroule en semaine. Mais les Centrafricains ont démontré par leur mobilisation qu'ils étaient déterminés d'aller au vote. Et tout s'est passé très bien. Avec les états-majors de province, notamment de Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes, nos compatriotes s'étaient mobilisés, s'étaient motivés. En tout cas, tout le monde était dans la joie de pouvoir voter. Et c'est la première impression que nous pouvons déjà partager avec vous.
François Ndékéré Ziangba, président de l'ANE en France, joint par Félix Yepassis Zembrou. Au Congo-Brazzaville, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars prochain. Le gouvernement a avancé la date du scrutin sur décision du président congolais Denis Sassou Nguesso. Les précisions d'Eddie Sango.
Le Conseil des ministres a décidé de convoquer le corps électoral le dimanche 20 mars 2016 pour le premier tour de l'élection du président de la République sur toute l'étendue du territoire national, indique les comptes rendus d'un Conseil des ministres tenu hier à Brazzaville. Le président Sassou Nguesso avait annoncé dans un discours devant les congrès le 22 décembre que la date de la présidentielle sera avancée au premier trimestre de 2016. Mais il n'a donné aucune raison de ces changements de date. La présidentielle devait plutôt avoir lieu en juillet, selon la nouvelle constitution votée au référendum du 25 octobre dernier, que l'opposition a boycotté dans sa majorité. Le gouvernement a soumis au Parlement l'adoption d'une loi électorale qui prévoit, entre autres, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, CENI, qui figure parmi les nombreuses exigences de l'opposition. La nouvelle constitution a fait sauter les deux verrous interdisant à M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat présidentiel en 2016. La limite d'âge est celle du nombre des mandats. Âgé de 72 ans, M. Sassou Nguesso, qui a passé 31 ans à la tête du Congo, n'a toujours pas annoncé sa candidature pour la présidentielle, mais ses partisans n'y s'en cachent pas.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, après l'investiture du président Roch Marc Christian Kabore, la mise en place des institutions s'est poursuivie avec l'élection de Salif Diallo au poste de président de l'Assemblée nationale. Salif Diallo est vice-président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti présidentiel qui a le plus grand nombre de sièges au Parlement. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Ronogo.
Le nom de Salif Diallo, vice-président et directeur de campagne du Roch Kabore, était fortement cité. Eh bien, cela a été confirmé ce mercredi. On écoute René Lompo, le doyen d'âge qui a présidé la session d'ouverture de l'Assemblée nationale.
Soso Adama, 43 pour. Diallo Salifou, 78 pour. Donc, le député Diallo Salifou est élu président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale, à l'endroit des députés, a fait cette adresse préventive.
Le but est dans chaque pas. Aujourd'hui, c'est un pas que nous effectuons. Et ce pas doit tendre vers le but qui est la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Dans la séparation des pouvoirs, notre institution a pour mission de voter les lois, de lever l'impôt et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Si notre auguste assemblée venait à se démarquer des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste que nos devanciers.
Le dernier acte pour le retour à une vie constitutionnelle normale au Faso reste la nomination d'un premier ministre pour la formation du gouvernement. Là aussi, le nom de Bissiri Joseph Sirima, ancien patron du MCA Burkina, revient en boucle. Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement est prêt à négocier avec le mouvement islamiste Boko Haram la libération des 200 jeunes filles de Chibok. Le président Muhammadu Buhari a précisé que les autorités nigérianes étaient à la recherche de contacts crédibles au sein du mouvement terroriste qui puissent confirmer que les jeunes filles sont toujours en vie. Rappelons qu'un total de 276 jeunes filles avaient été enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram alors qu'elles se préparaient à passer les examens scolaires à Chibok dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, berceau du groupe islamiste. Au Mali, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont autorisé la prorogation jusqu'au 31 mars de l'état d'urgence déjà instauré à deux reprises depuis l'attentat djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Cette prorogation a été votée en Conseil des ministres en raison, je cite, des menaces graves sur la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ce qu'affirme un communiqué officiel. En Afrique du Sud, le roi coutumier de la tribu de Nelson Mandela, les Tembou, commence aujourd'hui à purger une peine de 12 ans de prison. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources judiciaires. Le roi Bouyele Kaya Dalindjebo avait été condamné en 2009 à 15 ans de prison pour homicide, incendie volontaire et coups et blessures. Et puis, deux policiers rwandais de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, ont été assassinés à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la MINUSTAH et la police rwandaise. Les victimes ont été tuées par balle à leur domicile par des agresseurs non identifiés dans la nuit de mardi à mercredi, a précisé la police rwandaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Proche-Orient, en Syrie, au moins 16 personnes ont été tuées et 30 blessées hier soir dans des attentats contre trois restaurants de Kamishli, une ville du nord-est du pays. C'est ce qu'affirme un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des attentats qui ont été revendiqués par le groupe État islamique. Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre des entreprises et individus qui auraient œuvré notamment en Iran au développement du programme de missiles balistiques de Téhéran. C'est ce qu'annonce le Wall Street Journal. Il s'agirait d'une première depuis l'accord sur le programme nucléaire conclu le 14 juillet à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Et puis, pour terminer, Belgique, face aux menaces terroristes qui pèsent sur les fêtes du Nouvel An, Bruxelles a décidé d'annuler tous les événements de cette fin d'année. Dans plusieurs autres pays, les forces de l'ordre ont été placées en alerte maximale, comme en Turquie, où un attentat suicide aurait été déjoué à Ankara. Les mesures de sécurité ont également été renforcées ailleurs, comme en Autriche et en Russie. Et ce, après les attentats djihadistes du 13 novembre à Paris, ville qui sera d'ailleurs placée sous haute protection policière ce soir à l'occasion du Nouvel An. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.